C'est la chaîne qu'on a passé.
Du débat.
Emma ?
Oui, donc...
Ah bah on avait oublié le générique.
Oui, c'est ça, en fait. Voilà. C'est pour ça, moi, j'ai bugué. C'est parce que le générique n'avait pas été lancé. Donc, le débat de cette semaine, est-ce que le Gamergate est de retour ? Et donc, on va pouvoir commencer tout de suite en ayant un petit résumé des faits du tout premier Gamergate, le 1.0, on va dire. Et c'est Ash qui va nous parler du départ du mouvement à l'époque.
Ouais. Qu'est-ce que c'est le Gamergate ? On a lâché la phrase tout à l'heure, c'est un groupe de gamers, un groupe très très large de gamers, c'est appris avec les réseaux sociaux, qui disait qu'il y avait un problème d'éthique dans le jeu vidéo. Alors pourquoi est-ce qu'ils disaient ça ? C'est parce qu'on était en 2012, si je dis pas de conneries, il y a une développeuse, Zoe Quinn, qui a sorti un jeu qui s'appelait Depression Quest, et qui était un espèce de visual novel extrêmement lent, où globalement, t'essayais de faire ta journée, mais la moitié des trucs t'arrivais pas à les faire parce que t'étais en dépression. Et c'est, du coup, c'est voilà, ça te faisait, ça t'expliquait un peu les dépressions par les mécaniques et tout. C'était bah, typical ce qu'on est habitué aujourd'hui à voir dans du petit jeu, du petit jeu personnel, etc. Mais qui était assez novateur à l'époque. Et il y a quelqu'un, il y a un mec de Kotaku, un journaliste de Kotaku, qui a écrit au sujet du jeu. Et qui était plutôt positif dessus. Sauf que les gamers se sont dit, mais en fait c'est, enfin comment dire ça, vous les gamers ils ont vu un scandale. Parce que comment est-ce que un journaliste de jeux vidéo, comment est-ce qu'un spécialiste de jeux vidéo peut aimer un jeu comme ça, peut aimer cette espèce de faux jeu qui a zéro fun dedans, qui est fait par une meuf à l'époque, une personne non binaire, en tout cas.
Avec des cheveux colorés.
Avec des cheveux colorés. Et c'était vraiment genre, mais est-ce que c'est des gens qui vont venir détruire notre industrie du jeu vidéo ? On ne va plus jamais avoir des Nier Automata et des Stellar Blade et des Tomb Raider. Et on va se retrouver qu'avec des petits jeux chiants, etc. Mais avec, enfin voilà, Ubisoft va se mettre à faire des Depression Quest. Je suis sûr que ça va arriver tout de suite. Et du coup, ils se sont dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible que quelqu'un aime les jeux. Ah, mais c'est qu'elle a dû coucher avec lui.
Ah bah oui.
C'est qui elle a dû coucher avec lui pour avoir cette review.
Évidemment.
En plus, il me semblait que les deux se connaissaient. Je sais plus si au final il y avait vraiment eu une histoire de relation entre eux.
Je crois qu'il y avait vraiment,
En tout cas,
on s'en bat les couilles. Ça n'a pas grande importance de toi.
C'est ça, genre dans tous les cas, le mec a juste apprécié le jeu parce que c'était un jeu intéressant et c'était un truc assez novateur à l'époque et c'était le moment où tout le monde bandait un petit peu le jeu artistique déjà dans les rédactions et tout. Et à partir de là, ils ont commencé à dire, mais en fait, c'est de là que vient cette expression de « il y a un problème d'éthique dans le journalisme jeu vidéo » parce que, eh ben, il y a trop de collusion entre les journalistes et les développeurs. Alors, le fait que les journalistes se fassent inviter à des events à 10 000 balles par personne pour faire la promo de Call of Duty et faire des reviews après, ça, c'était pas un problème d'éthique, tu vois, ça, c'est pas un truc sur lequel on s'est posé trop de questions. Par contre, le fait qu'il y ait une meuf qui ait un jeu qui soit bien noté, ça c'était complètement impensable. Et c'est pour ça que c'est tout de suite parti de vraiment un truc de sexisme, de vraiment bah, purement du sexisme, de la misogynie. Et ça a pris en échelle parce qu'ils se sont mis à chercher des. Ça a énormément pris sur Twitter notamment, et puis un petit peu sur YouTube, ça commençait déjà à être cette époque-là, beaucoup des sites d'information aussi.
Bah,
des blogs,
4chan aussi, enfin les sites...
Et 4chan, ouais, qui était une grosse...
Mais c'est marrant, moi, c'est qu'à l'époque...
A... Ouais. Enfin,
j'allais dire, à l'époque, moi, j'avais joué à Depression Quest, et j'étais en mode, oh, trop bien, ça me parle, la dépression. J'avais aussi le sens de toute la polémique autour, et j'ai découvert ça des années après, j'étais en mode, mais ils sont débiles, les gens.
Et, bon, voilà, c'est parti de là. Les gamers... Ça a créé un mouvement chez les gamers qui était déjà assez soudé parce qu'il y avait cette ambiance 4chan, justement, il y a le fameux Pepe the Frog et tout. Ils sont mis à chercher d'autres cibles. Il y a eu notamment Anita Sarkeesian qui, à peu près à ce moment-là, qui avait déjà une chaîne qui analysait les stéréotypes sexistes dans les films sur YouTube et qui a fait un financement participatif pour en avoir un pour faire une saison sur les jeux vidéo. Et ça a explosé, ça a fait exploser le Gamergate. Alors, du coup, elle a pu financer son truc, enfin, de toute façon ça a pas, c'est pas vraiment ça qui l'a aidé, sa chaîne elle tournait bien, par contre elle s'est reçue des torrent de haine. C'était plusieurs milliers de messages par jour. Et puis surtout, très vite, c'était assez organisé. Donc, il y a eu d'autres cibles. Il y a eu Brian Awu aussi, qui n'est pas devenu quelqu'un de très intéressant aujourd'hui, mais voilà. Mais bon, Brian Awu ne méritait pas ça non plus. Et voilà, ça s'est très vite aussi organisé autour de harcèlement plus ciblé, autour de doxing. Donc on allait chercher l'adresse de ces personnes-là. On commençait par leur envoyer des pizzas, ce fameux genre de doxing. Mais ça allait, ça allait jusqu'à des menaces, ça allait jusqu'à des photos de leur maison. Ça a été avec Anita Sarkeesian jusqu'à certains événements qui recevaient des alertes à la bombe avant qu'elle arrive. Faut savoir qu'on est quand même, on est aux États-Unis, les gens ont des guns et il y a un shooting tous les 3 jours, il y a un mass shooting tous les 3 jours. Donc
voilà,
la situation était encore plus tendue que c'était. Ouais.
Ça, genre quand tu fais soit quelqu'un aux US, c'est pas la même saveur qu'en France. T'as la saveur supplémentaire qu'en plus le flic peut te tuer en fait. Alors, ici aussi, moins souvent.
Ouais.
Et puis il y a pas mal de streamers qui parlent d'ailleurs du trauma quoi
de fou
par rapport à leur spotting.
C'est pas le cas dans parce que c'est pas des streamers, tu vois, mais genre dans le cas des streamers, du coup tu fais ça en direct, du coup ça nourrit un peu sa machine de voir des clips de toi qui a peur, etc. Quel enfer. En fait, il y a le côté lolco qui est rempli par le spotting. Mmh.
Oui, c'est un mouvement qui est aussi arrivé en France. Il y a eu la figure aussi beaucoup de. Donc, déjà, il y a eu le 18-25, le 15-18 à l'époque d'ailleurs. Donc, les forums jeuxvideo.com qui étaient très peu modérés. Encore aujourd'hui, on râle pour que jeuxvideo.com modère ces putains de forums. Et encore aujourd'hui, ils évitent les trucs. Ils disent, il y a trop de gens, etc. Nous, on peut pas gérer, on leur délègue, etc. Et bon, on délègue à des gens de ces forums-là. Et du coup, il y a zéro modération. Et voilà, qui étaient déjà très actifs et qui se sont mis eux aussi à avoir des cibles de la même façon. Et notamment Marlar, qui avait écrit
Marlar.
Oui, un article où elle listait quasiment énormément d'expériences de sexisme dans l'industrie, ne serait-ce qu'à chaque fois qu'elle allait dans un salon, on la prenait pour l'assistante alors que c'était une game designer et quelqu'un d'important dans la prod, et qui est aussi, on va le dire clairement, moi aussi ça a été mon premier contact avec le sexisme rampant dans l'industrie, et surtout de le voir du côté d'une meuf qui le vivait, et de voir que tu vois, genre le voir répéter toute la journée, ça te détruisait quoi. Et du coup, il y a eu énormément d'harcèlement. Ça, c'est ensuite le 15-18, puis le 18-25. Donc, les forums jeuxvideo.com, globalement, ont continué de s'organiser. Il y a eu aussi, après le moment MeToo, des ciblages d'initiatives féministes. Je me souviens qu'il y avait une hotline féministe qui avait été extrêmement violemment ciblée. Et il y a eu des plaintes qui ont suivi et qui ont un peu pris. Mais voilà, c'était un gros mouvement de harcèlement. Je sais pas si on commence tout de suite à parler de la récupération par l'extrême droite.
Petite question, c'était avant ou après le harcèlement de Marion Seclin, du coup, Gamergate en France? Je me rappelle plus.
En vrai, je sais plus.
Je pense que c'était avant.
C'était un peu avant, je pense. Ouais.
Je pense que c'était un peu avant.
Moi, j'ai des vibes 2013. Hein.
Okay. Peut-être. Mais oui, non, on va pouvoir parler effectivement de toutes les conséquences politiques que ça a eu. Et je vais laisser la parole à Krohn pour commencer sur ce sujet.
Parce que des conséquences politiques, oui, il y en a eu quoi. En fait, le mouvement, il commence, c'est 2014-2015. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça cible ça intéresse en tout cas une communauté qui est assez peu politisée à la base. En marchant sur différents affects qui vont aller chercher le petit gamer au fond de sa chambre. Et il y a des gens qui ont bien compris que ces gens-là, ils n'étaient pas très très intéressés par la politique de base. C'est l'alt-right aux États-Unis. Il y a notamment un monsieur qui s'appelle Steve Bannon. Steve Bannon, alors il n'est pas le seul, mais c'est la figure la plus emblématique de ça. Il voit le phénomène Gamergate se passer et qui se dit... Là, il y a un coup à jouer. Et ça va donner des campagnes de communication, et notamment de communication numérique, pour aller séduire ce public-là, aller choper des affects qui étaient déjà remués quoi, par ce Gamergate-là, et les mettre au profit d'un vote en 2016 pour Donald Trump. Et donc ces votes-là, en fait, ça a quand même vachement bien marché. Et même d'un point de vue plus global... Les stratégies de communication numérique qui sont sorties de là à l'époque, l'utilisation de mèmes, Le fait de faire des vidéos YouTube ou des formats plus courts ou faire un petit peu tout n'importe quoi par rapport à ça, des boucles de communication aussi, tout ça, ça a été réutilisé après par quasiment l'ensemble du champ politique. C'est, je veux dire, vous regardez aussi la campagne de 2017, la campagne de Jean-Luc Mélenchon, qui ont beaucoup, beaucoup repris de la campagne qu'avait fait Trump. Alors, pas en termes d'idées, mais en termes de communication numérique, où il y avait vraiment des idées qui sortaient de ça, quoi.
Petit aparté, oui. Justement sur Steve Bannon, pour vous dire, pour donner un petit peu une idée aux gens qui connaissent pas, il y avait vraiment une seule figure de méchant dessin animé dans le monde véritable qui contrôlerait absolument tout dans le monde et toute l'extrême droite, ce serait plus ou moins lui, en gros. C'est-à-dire que le mec est quand même derrière énormément de choses, et d'ailleurs il est aussi en contact avec...
J'allais y venir parce que Steve Bannon, c'est vraiment l'homme qui susurre à l'oreille de Donald Trump, mais pas que.
Entre autres.
Lui, il est vraiment pas que. Il est un peu, disons, la tête d'une internationale fasciste, quoi, grosso modo. Il est en contact avec des responsables politiques de l'extrême droite un petit peu partout dans le monde, et d'ailleurs. Cocorico, parce que c'est alors en France, on a Marion Maréchal Le Pen qui allait donner des conférences d'ailleurs pour Steve Bannon aux États-Unis, et donc il y a vraiment une communication entre ce mec-là et les extrêmes droites du monde entier pour donner des formations et mettre en place quelque chose de plus international, quoi.
Oui, avant ça, il était aussi en contact avec Marine Le Pen, et ça m'étonnerait pas.
Bien sûr.
Qu'il
toujours
soit
en contact avec Marine Le Pen.
Oui, voilà. Oui, du coup, est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport aux conséquences politiques, veut ajouter quelque chose ?
Non, okay. Effectivement, ouais. Souvent, c'est même devenu même à quel point genre, le Gamergate était un peu... En fait, c'est surtout même genre, du pied domino, du gros domino à la fin. C'est-à-dire que là, le Gamergate a indirectement mené à l'élection de Trump, etc. Et t'as ce truc que... Sans être complotiste, c'est pas anodin que Gamergate 2 soit dépoussiéré là, à 8 mois de la présidentielle américaine. Quoi.
Le petit domino chier sur un visual novel d'une meuf, Inchu,
ouais, c'était.
Ouais.
Pas chier. Hein.
Après, c'est des dynamiques qui étaient là depuis. Enfin,
oui, c'est ça.
Donc, qui dépasse vraiment ça. Il commençait à y avoir des jeux un peu plus originaux, genre les queer games, ça commençait déjà à exploser. Il fallait qu'il y ait un jeu qui soit pris. Il fallait qu'il y ait. Tu vois, genre, la dynamique était là et il fallait que ça prenne un moment.
Oui,
malheureusement.
Oui.
D'ailleurs, fun fact, c'est la même analyse qu'ont eux-mêmes les droitards sur le mouvement. Typiquement, là, récemment, j'ai revu que Sargon of Akkad, merci Kron pour le lien, qui était à l'époque une grande figure internet autour du Gamergate à l'époque,
merci
a dépoussiéré sa chaîne YouTube.
Pour du bug.
Très très fan, elle l'adore, elle regarde toutes ses vidéos. Non, elle a envoyé pour la recherche.
C'est vrai qu'à l'époque, il y a des figures sur YouTube qui vraiment engrainent les masses. Et Sargon of Akkad, c'est un des gros noms, et il a fait récemment, il y a 14 jours je crois, ou 15, une vidéo sur le Gamergate 2.
C'est ça. Et le pire, c'est qu'en fait, il a une analyse parfaite de l'histoire et de ce qui se joue, juste qu'il a son écrit d'analyse de débile. C'est-à-dire que du coup, alors pour lui, du coup, c'est effectivement, c'est les vilains woke, ils ont raison de le faire, etc. Mais il a l'analyse parfaite de pourquoi ça n'a pas marché, comment ça s'est déroulé, qu'est-ce qui s'y jouait, etc. Quoi. Et pour le coup...
En plus, il est vraiment en position... les woke ont gagné parce que vous êtes des merdes. Tu vois, il y a ce truc-là un petit peu particulier, en mode vous vous êtes fait laisser. Il s'adresse à son public de Gamergate, quoi. Vous vous êtes laissé marcher dessus par les féministes, par les non-blancs, par t'as tout ça. Et dans les commentaires, t'as des trucs aussi genre vachement intéressants avec lesquels je suis. Alors attention.
Je ne dis pas que je suis d'accord avec le propos.
C'est que en fait, il y a des choses qui sont intéressantes dans le sens. Moi, j'ai vu plusieurs commentaires qui disaient en fait, le premier Gamergate, il y a pas de Gamergate 2. Mm. C'est juste que le premier Gamergate n'a jamais pris fin, en fait. Et ça, je suis très d'accord avec ça parce que. Moi, il y a quelques mois, je m'étais mis en tête de faire une vidéo qui retraçait ça sur le Gamergate. Et en fait, on voit que ces communautés-là. Et en tout cas, genre cette méthode d'action, ces idées-là très conservatrices, très réactionnaires, elles sont sorties un petit peu du milieu du jeu vidéo. Il y en a toujours, hein, il y en a toujours bien sûr, mais ça allait sur d'autres trucs. Et par exemple, en France, le cinéma YouTube, où tu vas avoir des figures du YouTube critique de cinéma qui vont vraiment se s'accaparer de ces questions-là. Et c'est aussi le cas aux États-Unis, un petit peu partout, mais en France, c'est là où on le voit le plus, en tout cas chez nous. Vous vous souvenez des critiques de Ariel est noire. Expliquer la présence de noirs dans le Seigneur des Anneaux, etc. Vous avez tout ce genre de
choses. Dans le lore.
Ouais, le justifier dans le lore. Bref. Et ça, en plus, ça va toucher plus loin que juste les gamers gâteux, que juste les conservateurs, etc. Parce que il y a des. En fait, comme à l'époque, ça va aller toucher des communautés qui sont assez apolitique et les faire réagir un petit peu sur des points sommaires mais profonds, quoi. L'angoisse raciale, l'angoisse sexuelle et l'angoisse identitaire, en fait, quelque part. Et que tu vas avoir des gens comme par exemple le joueur du grenier qui je ne pense pas que ce soit son avis final sur la question du tout, tu vois, mais comme il y a plein de gamers gâteux qui sont pas vraiment arrêtés là-dessus, mais qui sont portés par le mouvement, qui ont été saisis par le mouvement, par les mêmes, par toute cette communication-là, et qui vont se mettre à avoir des avis extrêmement réactionnaires, extrêmement conservateurs. Mais par bêtise, tu vois, aussi. Parce que tu n'es pas politisé, oui. T'as pas de grille d'analyse, et tu vas tomber là-dedans, sur ce genre de choses. Et après, ça se transforme.
J'avais deux trucs sur lesquels réagir. Le premier, c'est de continuer sur « Ouais, il y a une vraie continuité du Gamergate. » En fait, il y a des mécanismes qui sont établis et qui n'ont jamais disparu. Premièrement, tu vois, genre, on sait par exemple que 4chan, c'est devenu clairement un lieu qui est beaucoup d'extrême droite. Alors, ça dépend un petit peu des boards, etc. Mais voilà, globalement, tu vas pas sur Slashpoll. Enfin, tu sais ce que tu fais quand tu vas sur Slashpoll, quoi.
Ouais, et après,
Il y a aussi ce truc de... Il y a des...
Ouais, 8chan
et tout, blablabla. Mais il y a aussi de la continuité aussi, par exemple dans le recrutement de l'extrême droite dans les jeux vidéo, c'est toujours un sujet qui est en vrai ultra présent et qui est devenu très très invisible, parce que maintenant ça passe. J'avais vu une conférence, justement, genre il y a des gens qui me demandent des datas sur ça, et j'en ai plus trop, parce que jusqu'à ce que à la GDC en 2022, je crois, il y a eu une conférence d'un mec de la sécurité. C'était un mec ou une meuf du FBI et quelqu'un qui était plus dans une assos qui monitorait ça et qui était en mode on essaie de continuer à avoir une visibilité là-dessus. C'est toujours ultra présent, mais c'est très compliqué à suivre parce que maintenant ils ont changé leur méthode, ils vont sur des trucs genre Fortnite, sur des vocal chats, sur des chats vocaux avec des gens random. En très petit comité, comme ça, désolé pour les bruits de chat. Où ils peuvent, tu vois, genre commencer à tester leurs arguments et tout, à tester l'eau, et puis ils essayent de ramener autant de gens que possible vers des petites communautés closes, souvent sur Discord, d'extrême droite, ou full fascisme. Et du coup, il y a toujours des méthodes de recrutement et des petites communautés qui sont toujours très organisées. Donc effectivement, le Gamergate n'avait jamais disparu. Il y avait moins de cibles il y avait moins de grosses cibles, et il y avait moins de trucs qui channel la communauté.
Un petit peu, quoi.
Mais voilà. Ouais.
C'est ça, genre.
J'ai un deuxième point, mais je peux vous laisser un petit peu.
Je te laisserai après, du coup. C'est du coup, genre. Ouais. J'avais la même analyse dans l'épisode 2 de Jedi où je parlais aussi du Gamergate, c'est qu'en fait il y a ce truc que vous pensez vraiment comme un mouvement diffus qui se reconcentre parfois mais qui se rediffuse après. Et typiquement, moi j'ai pas mal suivi, Cronel c'était du coup sur le YouTube cinéma. Moi le truc que j'ai vu aussi beaucoup de gamers ghetto qui sont reconvertis temporairement en termes de focus guerre culturelle, c'était sur les traductions d'animés japonais. Où du coup ça allait harceler du Crunchyroll et compagnie parce qu'ils osaient changer des petites phrases ils mettaient des pronoms et tout comme ça, genre vraiment à chaque fois de dire que en fait il fallait, comme le contenu de base était parfois un peu conservateur, un peu réactionnaire, il fallait pour mais dans un sens artistique, en mode ah non, du coup pour que l'œuvre soit fidèle, il faut qu'elle retranscrive exactement ce que disait l'œuvre japonaise originale. Et du coup, ils ont un argument de bonne foi entre guillemets pour justifier d'avoir des œuvres réac en français, en anglais, quoi. Et du coup, on a beaucoup vu ça, etc. Et du coup, ça fustigeait les traducteurs Crunchyroll et compagnie, Funimation, etc., à dire que c'était des wok.
Ça fustigeait aussi du connasse de blonde.
Oui, bah, je voulais en parler. C'est que du coup, effectivement, un nom qui revient souvent, qui m'attend traque le Gamergate, hein, c'est Rev Save Desu qui avait du coup, pareil, qui t'avait harcelé toi aussi à l'époque sur quand t'avais milité contre l'avenue d'un
requin. Le Kanakamatsu, ouais.
Ouais.
Est-ce qu'il y a d'ailleurs Ken Akamatsu qui a aussi cette vision, qui a complètement repris cette vision de le féminisme, c'est des trucs, et les LGBT, c'est des trucs qui nous sont apportés par les Nations Unies, etc. Et il faut se battre contre ça. Voilà.
Est-ce que vous avez des choses à ajouter là-dessus? Ou.
T'avais ton deuxième point, H, je t'avais interrompu. Oui.
Bon, en fait, c'est presque. Ça va faire une continuité parce que j'étais toujours dans le côté les conséquences, l'héritage du Gamergate. Et en fait, justement, Krohn reprenait un peu Sargon of Arcade, qui disait que on a été faible face aux féministes, etc. Ce que je trouve intéressant en vrai, c'est de voir que non, les Gamergate, ils ont beaucoup joué, et beaucoup les Gamergateux, ils ont beaucoup été joués comme les idiots utiles des libéraux, parce que c'est un peu concrètement leur vision extrêmement masculiniste et raciste de la société aux États-Unis en particulier. Genre bon, elle est moins dite par les libéraux, par contre ils ont une politique qui est tout aussi, enfin voilà, concrètement Biden n'a pas arrêté les horreurs aux frontières, notamment avec le Mexique. Et cela, niveau féminisme, c'est pas ça. Enfin voilà, Black Lives Matter, ça a été, il a pas révolutionné grand chose quoi de côté. Et en gros, ça jouait, les Gamergateux, ils jouaient beaucoup les idiots utiles en mode, le mec qui va le masculin, comment dire ça. Oui voilà, le problème de notre société. Tous les problèmes type masculinisme, racisme, etc., ça vient de cette figure du gamer dans sa chambre qui n'y connaît rien, qui harcèle des gens sur internet, etc., qui a des idées, pas très éclairées et tout. Et ça ne vient pas, par exemple, des grands dirigeants, des grands mecs, des grands patrons, et ça ne se traduit pas dans toute la société, ça vient pas des flics qui sont des bonnes figures de quartier, etc. Et en fait, il y a aussi ça un peu qui a joué dans le fait que tout le monde s'est beaucoup désolidarisé du Gamergate. C'est que c'est très simple et c'est très utile de se différencier d'une extrême droite caricaturale. Alors, l'extrême droite caricaturale, parfois, elle arrive au pouvoir et il y a Trump quand même, tu vois. Donc, genre, c'est pas pour. C'est... On est dans des putains de pays fascistes, tu vois, de façon générale. C'est pas pour nuancer ça. Mais en tout cas, ouais, il y a ce truc de. Bah, ouais, ils ont perdu parce qu'ils étaient les yeux utiles des gens.
Ouais, ils servent beaucoup de bouc émissaire, quoi, quelque part aussi. Mais de la même façon que la figure de l'incel va aussi servir comme pour. Désigner une cible qui va servir en fait dans l'agenda politique plus global des libéraux en général, quoi.
Mais après, sinon, là où on pourrait se dire que pendant un temps ils ont plus ou moins perdu, même si c'est vraiment à nuancer, surtout au vu de ces quelques dernières années, c'est d'un point de vue bataille culturelle, en fait, d'un point de vue qu'est-ce qu'il y a dans nos jeux, qu'est-ce qu'il y a dans nos films, etc. Ce truc de... Il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas questionnées avant, où en fait, ce qui a émergé de ça, c'est quand même qu'il y a eu... Alors, c'est toujours sur des trucs très libéraux et tout, de représentation, etc., quoi. Mais c'est des trucs où, effectivement, c'est ce qu'eux ne voulaient pas voir arriver dans leurs médias, qui, finalement, est un peu arrivé dans leurs médias. Mais ceci dit, et je pense que c'est de ça dont parlait aussi, je sais plus comment il s'appelle, votre youtubeur
Sargon of Arcade.
Oui, voilà. Oui. Je pense que c'est de ça qu'il parlait. Mais après, en vrai, c'est aussi à nuancer quand on voit les chiffres et les productions qui commencent à ressortir avec des arguments anti-woke, etc. Où en fait, on voit que les productions réactionnaires, elles continuent à très bien se vendre au final. Donc
ouais, et encore. Le quand tu regardes quelque part, il y a quand même ce truc, même si on voit avec, enfin, je vais dire, tu as certains exemples, mais on voit une recrudescence quand même, par exemple, des boîtes américaines qui étaient parties sur, je veux dire, une instrumentalisation des identités sociales, etc. Enfin, comme d'habitude, quoi. Mais qui, en se prenant un backlash de mouvements conservateurs, recule sur ces trucs-là. Mais même si on en voit quelques-uns ces derniers temps, en fait, il y en a toujours eu. Mais quelque part, c'est toujours, t'as toujours ce truc global-là que c'est plus rentable pour une entreprise d'être... de pas être full conservateur, tu vois.
Que tu dis, ça
fait de l'instrumentalisation, ça fait du queerwashing, tout ce que vous voulez. Donc ça reste de la merde, hein, je veux dire, mais ça va pas full conservateur non plus. La plupart des entreprises juste tiennent quand ils se prennent une vague de harcèlement, de critiques de la part des mouvements conservateurs.
Ouais. Alice, tu voulais
dire, j'allais dire, ça me fait penser à un exemple concret de... c'était, je sais plus quelle marque de bière... Il y avait une femme trans en
Égypte
sur les Bud Light, oh ouais. Sur les canettes, et que ça avait, il y avait eu un énorme backlash par rapport à ça. Je crois même qu'il y a
ça fait partie de ceux qu'on reculait par rapport à ça, oui.
Oui.
Je crois même qu'il y a un gars, il est arrivé carrément dans un magasin pour tirer sur les canettes, quoi.
Ah oui, bah oui. C'est des Américains, quoi.
À ce niveau de Matrix, c'est là, quoi.
Mais en vrai, moi, je serais plutôt pas d'accord, en vrai. Et je suis toujours un peu, enfin, tu vois, genre quand j'entends Anita Sarkeesian dire qu'on a gagné la guerre culturelle, elle le dit, elle finit la phrase en disant, enfin elle finit, en tout cas ça, le point de sa conférence, c'est on a gagné la guerre culturelle de ce côté-là, mais maintenant il faut parler des travailleurs, il faut réussir à mieux parler de ça. Donc après justement, moi je suis pas d'accord avec ça, et c'est plus, enfin je trouve qu'il y a un problème dans cette affirmation, il y a un problème que généralement dans ce côté on a gagné, c'est que, bah, c'est pas des questions, le côté représentation et le côté... et le côté travailleur, c'est pas des trucs qui sont séparés, et au contraire, s'ils sont restés séparés, pour l'instant, on n'a pas gagné grand chose. Parce que concrètement, bah, on a abordé ces questions de genre, ces questions de race aussi, d'un point de vue qui est pas extrêmement social au final, qui minimise, tu vois, genre, enfin voilà, je vais pas essayer de rethéoriser ça là maintenant, mais voilà, si les questions de race et de genre, elles sont profondément liées au côté social, aux structures de pouvoir qui se répètent dans le travail, qui se répètent dans le capitalisme, etc. Et au final, bah, avoir des girl boss à l'écran, mais ne pas réfléchir, mais ne pas avoir réussi à amener des trucs sur sur comment ça se lie avec le reste, c'est que t'as raté quelque chose dans ton analyse du genre, dans ton analyse de la race, dans ton analyse de l'intersection. De base, intersectionnel, c'est pour dire, le but de l'intersectionnalité, c'est pour dire, bah, y a des meufs noires qui travaillent, il faut parler des femmes noires travailleuses. Et c'était en tout cas un des points très essentiels dans le black feminist, par exemple. Il y a un peu ce truc, et ça se... Enfin voilà, tu vois, genre, pour moi, ça se voit beaucoup plus loin, parce que ce qu'on voit, je pense que Deck Nine est un très bon exemple, par exemple, de justement de ce qu'on voit, de cette espèce d'acceptation, de tokenisation, les travailleurs divers sont super utilisés, etc. Mais derrière, ils n'ont pas de pouvoir, ils peuvent pas raconter leurs propres histoires, c'est des histoires, les histoires qu'on nous vend, c'est des jolies histoires de développement personnel, mais qui vont jamais aborder de façon plus profonde des thèmes, parce que, à la tête du truc, il y a un mec blanc, alors sans vouloir dire que s'il y avait une meuf trans à la tête du truc, ça résoudrait forcément tous les problèmes, particulièrement une meuf trans blanche, tu vois, mais genre, bah, c'est juste un mec blanc qui a bloqué toutes les décisions prises collectivement, qui a bloqué plein de thèmes, et ouais, voilà. Je pense que pour moi, tant qu'on n'a pas tout gagné, on peut pas dire qu'on a gagné. Il faut commencer, il faut faire une critique à l'intérieur. On a été utilisé comme un pion chez les libéraux, tu vois. Genre, c'est beaucoup mon.
Je dis pas on a gagné. Je questionne qui est le on. C'est plutôt ça. Ouais. C'est que
justement, et
c'est y en a qui disent on a gagné. Qui a gagné? Le capitalisme libéral.
C'est
libéral de ce capitalisme. Nous, personnellement, si on prend ce on, bien sûr que non, on n'a pas gagné.
Lenofi ?
Oui, bien sûr.
Et c'est justement, en plus, et là, c'est justement une des erreurs d'analyse de Sargon Orcade dans sa vidéo, c'est qu'en fait, lui, du coup, il considère qu'en fait, quand les libéraux étaient confrontés aux masculins gamers, comme ils étaient comme une poule devant un couteau, ils se sont dit, on va laisser les manettes au plus woke de la boîte. Alors là, ils ne pouvaient pas être plein de la réalité, par contre. Genre c'était genre, genre moi j'allais en parler en parlant de Deck Nine et en fait tu l'as fait avant moi H du coup voilà quoi.
Après, là,
là, là, où j'allais en, là où j'allais en venir aussi, c'est que ben, justement ce truc de on a gagné, on peut avoir cette impression quand on regarde de loin les productions et tout, mais en fait la vérité, j'ai pas l'étude sous la main, mais je sais qu'il y a un organisme qui avait essayé de comment dire, de mesurer les fameuses représentations qu'on nous vend comme ce qu'on a gagné et tout dans les jeux vidéo, et en fait c'est quelque chose où il y en a moins qu'avant en réalité. Et peut-être que c'est fait d'une manière où, dans certains, voilà, on les voit dans certains gros jeux, dans des très très grosses licences, il y a des lesbiennes, il y a des homosexuels, il y a des personnes trans. Mais d'une manière générale, en fait, c'est aussi quelque chose qui est en recul. Et ça veut aussi dire que même de ce point de vue-là, en fait, on n'aurait de toute façon pas gagné. Donc,
Une représentation qu'il n'y a pas beaucoup, c'est les prolos et les ouvriers dans les jeux.
Ouais, il y en a un peu, mais
il y en a encore moins que les homosexuels.
Mais oui, après, de toute façon, tu regardes que ce soit les gamers guetteux ou l'extrême droite en général, ils sont, y a une désillusion parce que, en fait, t'as ce truc qui est assez propre du fascisme, hein, qui est de à la fois être faible et tout de même être fort.
Oui.
Où il y a cette double affirmation-là très contradictoire. Ils sont persuadés à la fois d'être plus forts parce que plus nombreux, parce que c'est eux qui ont les plus gros bras, c'est eux les plus musclés, les plus tu vois tout ça.
Ceux qui ont raison.
Et qui ont raison.
C'est eux qui sont
réclutés. Quelque part, c'est aussi les plus faibles parce que ils se font marcher dessus, parce que ouin, les woke sont aux manettes partout. Donc c'est ce qui n'est pas vrai, mais c'est l'impression qu'ils ont depuis leur point, parce que de toute façon, bah, leur référentiel de woke, c'est pas le même. Ils vont considérer comme woke bah, des libéraux américains qui sont très 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 loin de ce que bah, entre nous là on peut représenter.
Oui, et si on a fini sur ce sujet là, je pense qu'on peut aussi embrayer sur le cas de la Corée, parce que la Corée du Sud a un peu eu son propre Gamergate aussi plus récemment. On en parlait tout à l'heure avec la chronique de Lenofi, mais il y a eu il y a eu toute une guerre culturelle aussi, et une guerre, comment dire, une gender war qui a eu lieu en Corée du Sud, notamment à travers Mégalia, dont on parlait tout à l'heure.
Yep, de fond. Du coup, je vais résumer rapidement. Du coup, je peux prendre plus de temps que tout à l'heure. Parce que du coup, en gros, donc, il y avait ce fameux forum DC Inside. Et en fait, il faut comprendre que de base, bon, c'est un 4chan-like. Du coup, bon, de base, t'as la bonne crème de gamer, etc. Mais du coup, en plus de base, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, en Corée du Sud, t'avais vraiment avant ben que des vieilles féministes à l'ancienne quoi, vraiment première vague etc. Et c'était la seule représentation que les féministes avaient, et en fait c'est vraiment des légalistes quoi. Et du coup ben, les légalistes ont eu des petites victoires en Corée du Sud sur les droits des femmes etc. Et du coup gros backlash sur les serveurs de DC Inside. Et là du coup ben, les quelques meufs du forum elles sont en mode oula attends les refs on se calme ou quoi là. Vous prenez trop la conf, quoi. Et du coup, bah, leur réaction en tant que... quand même, les petites harceleuses de type DC Inside, bah, c'est de devenir full misandre, devenir avec full des mèmes aussi débiles que ceux des mecs. Hein. Notamment, c'était de reprendre l'équivalent... en gros, ils ont des équivalents au Wojak pour se moquer d'archétypes, etc. Donc typiquement, eux, c'est ce qu'ils appellent les Kimchi Women, etc. Et du coup, donc, c'est gros, c'est les Kimchi et les Sushi Women, je crois, un truc comme ça, bref. Et du coup, l'idée, c'est du coup de proposer des versions misantes des mêmes concepts en faisant le Kimchi Man, etc., etc.
En fait, c'est pardon, je te coupe juste deux secondes, c'est marrant parce que c'est exactement, en fait, que ce soit dans les arguments, dans la technique, tout, en fait, de ce qui se passe en Corée, que ce soit du côté masculiniste ou du côté des féministes, en fait, c'est une copie de ce qui s'est passé, ce qui s'est joué aux États-Unis pendant le Gamergate, ouais. Où t'avais à la fois bah, cette force de Gamergate qui émergeait, mais où t'avais aussi des gens, et notamment sur YouTube, qui produisaient du contenu pour se foutre de leur gueule. Et ça marchait très très bien. Et c'est ce qu'on a appelé le BreadTube. Enfin, grosso modo, c'est le YouTube de gauche aux États-Unis qui est né à ce moment-là. où tu as eu bah, plusieurs chaînes qui se sont lancées là-dessus. Bon, on pense à ContraPoints, on passe à Lindsay Ellis, on pense à Edge Bomber Guy, mais aussi en allant plus loin, il y a Vosh, il y a Destiny, etc. Qu'on pense de ce qu'on veut de d'eux aujourd'hui. Hein.
J'aime bien le disclaimer dès qu'on dit Vosh.
Ouais,
ah ouais, moi je pense à un cheval, mais bref.
Donc, voilà. Mais tu as plein de chaînes. T'as Sean, t'as Big Joel, t'as... enfin bref, plein de trucs qui se sont lancés avec des vidéos qui décrédibilisaient en fait. T'en avais qui étaient là pour montrer point par point pourquoi c'était de la merde, et d'autres juste qui se foutaient de leur gueule. Tu regardes les premières vidéos de Edge Bomber Guy, il passe 10 minutes à se foutre de la gueule de Sargonov AK, quoi.
Après, pour le coup, Megalia, c'est pas non plus
ce que j'allais dire.
Tube, quoi.
C'est ce que j'allais dire.
Ce truc-là. De décrédibiliser, de se moquer atteindre
mais justement Galia, c'est un peu réac, quoi. Justement, c'est
que j'allais dire, c'est qu'effectivement, en fait, il y a une différence sociologique entre, justement, même si la dynamique était à peu près similaire, hein, la sociologie était quand même très différente entre les meufs de Megalia versus BreadTube. Du fait est que ça reste des forchaneuses, ça reste des meufs qui ont le harcèlement dans leur ADN et du coup, bah, et tout, l'humour noir et compagnie. Et le problème, c'est du coup, ce qui s'est passé, c'est du coup, bah, le mouvement s'est construit. Elles ont été acceptées puis bannies d'ici Inside. Elles ont créé leur propre forum, le forum Megalia, où elles se partagent, etc. Où elles ont construit aussi bah, leur fameux mème des deux doigts, etc., pour trigger les masculinistes. Le problème, c'est qu'en fait, le grand public a eu vent du mouvement Megalia, et en fait il y a eu ce problème de ce truc de, tu vois, genre si t'es un américain et que tu tombes sur du BreadTube, tu es audible. Si tu es un normie coréen et que tu tombes sur du Megalia, c'est inaudible, parce qu'en fait quand tu ne vois que la réponse qui est faite aux misogynes sans comprendre le contexte et ce que eux faisaient de base, t'es en mode oula, bizarre les féministes, quoi. Et c'est
ah
ce
ouais,
qui c'est malheureusement
les respectability
pas...
politics, en fait, les nofis.
Bah non, pas du tout. Alors,
en
notre...
tant que femme des gènes, là, et d'un seul coup, quand c'est des femmes cis.
Mais pour le coup, Megalia, c'est vraiment chaud d'un point de vue.
Genre leur image est désastreuse, malheureusement. Hein. Mmh. Moi, j'aimerais bien que ces girl boss harceleuses gagnent, tu vois. Mais du coup, leur image est vraiment, bah, malheureusement, désastreuse en Corée du Sud. De base, c'était beaucoup plus misogyne. Hein. Mais vas-y,
oui, et aussi parce que sur pas mal de points, genre c'est... Enfin, genre elles sont très homophobes,
c'est
très lesbophobes.
Notamment, il y a une scission Megalia où du coup, en gros, ça postait typiquement pas mal de mèmes homophobes dans leur tradition vraiment mise en hardcore. Et du coup, ça a eu des... ça fait une scission au sein du mouvement entre ben, les purs jus féministes pro-LGBT, etc., les vrais du tas, versus les trolleuses, quoi, qui étaient en mode homophobe et compagne. Et du coup, celles-là, elles ont créé leur propre branche Humad, et les deux mouvements ont plus ou moins un peu disparu actuellement, il me semble, d'ailleurs.
Pour raison qu'on n'avait pas ce genre de truc en Occident.
Parcours classique.
D'avoir des connastreux de
de communautés radicales sur Internet, quoi.
Bon, ma take, c'est que si t'es misandre à l'extrême, et la misandrie, c'est un peu un revers de la médaille du sexisme. Et donc, si t'es misandre à l'extrême, tu finis par faire, en fait, un peu de sexisme, un peu d'homophobie, un peu de transphobie, en fait.
Bah, tu pioches un peu, voilà. Sexisme, tu prends un petit peu de tout.
Un petit peu. Yep.
Je ne suis pas d'accord.
Je dirais pas que c'est automatique, mais bref.
Non, on va avancer
un peu et parler du coup aussi de leur fameux Gamergate coréen, ouais. à proprement parler, c'est-à-dire tout le drama qu'il y a eu autour de du jeu Limbus Company et du studio du coup Project Moon, enfin qui a commencé avec ça
l'incident de la tenue de plongée.
Voilà, et qui du coup ce dont parlent les vidéos que vous recommandez, Lenofi, tout à l'heure, sur du coup le Project Moon, du coup, qui est un studio qui a sorti, enfin un studio plutôt indé qui sortait des petits jeux, qui avait sa petite fanbase et tout, qui montait un peu et qui a décidé de sortir un gacha game, donc un jeu avec qui se monétise avec moult skins, etc., à acheter. Et qui a tendance, c'est un genre qui a tendance en Corée, pas que en Corée d'ailleurs, mais c'est qui est très populaire en Corée, et qui a tendance à beaucoup vendre à travers la sexualisation de ses personnages. Et c'est quelque chose que Project Moon n'a pas fait à travers son jeu Limbus Company. parce que il y avait trop, on voyait pas assez de peau sur les sur les skins, sur les fameux skins sexualisés des personnages. Et ça a créé un énorme backlash avec des masculins qui sont arrivés avec des pancartes devant le siège de l'entreprise et tout, qui ont distribué des pamphlets, des tracts.
L'odeur la plus nauséabonde, quoi.
Ouais. En plus, du coup, de base, c'est qu'en gros, ils avaient promis des poules pour l'été. Du coup, donc là, les gamers se disent, oh, l'été, des bikinis. Et du coup, ils ont eu une meuf en tenue de plongée intégrale. Bon, un peu latex codé, mais du coup, c'est pas sexy pour eux, tu vois. Et du coup, bah, ils sont en mode, oh là là, il y a forcément une vilaine féministe quelque part derrière. Du coup, ils ont tout fait pour la faire virer. Ils ont réalisé au bout de plusieurs jours, semaines, que c'était un mec qui avait fait le dessin. Du coup, ils sont mis à harceler une autre meuf dans le studio en mode, non mais, on va trouver la féministe dans le coin, forcément, il y a une meuf à faire virer. Et voilà, du coup, je te laisse reprendre.
Oui, et du coup, bah, pour la faire relativement courte, je vous laisserai aller regarder les vidéos... si vous voulez beaucoup plus de détails, quoi, mais pour la faire un peu courte, bah, du coup, il s'est passé ce truc de... les gamers sont vraiment rentrés dans... se sont vraiment organisés et sont vraiment rentrés dans une série de vendetta comme ça.
Ouais, Project Moon, c'est le blueprint, quoi.
Voilà, c'est ça. Où ils sont vraiment allés s'attaquer à plein de jeux, enfin, plein de studios qui faisaient des... comment dire, du contenu qui était pas suffisamment sexualisé pour eux, voire même des fois qui était suffisamment sexualisé, qui avait, voilà, le fameux mouvement qu'on peut voir partout, en fait, hein, parce que bah, genre,
c'est un mouvement juste, de base de la main.
C'est juste deux doigts qui sont proches l'un de l'autre, quoi, et du coup, dès que tu animes des mains, en fait, tu fais ce mouvement. Et donc, en fait, partout où ils ont voulu trouver ce geste, bah, ils ont trouvé ce geste et ils ont créé des énormes backlash et tout avec les studios coréens qui ont globalement, majoritairement acquiescé, dit « Ah oui, on va virer ces connasses de féministes » et qu'ils l'ont fait.
Yep.
Et donc, le Gamergate coréen est quand même un Gamergate qui a énormément fonctionné, en fait. Nous, on disait c'est pas clair si on a gagné ou pas la bataille culturelle à ce niveau-là, au niveau de l'industrie. Mais là, c'est clair que c'est eux qui ont gagné, en fait.
Genre, le seul point où ils sont inaudibles, c'est quand ils essaient d'exporter leur lutte, notamment sur les doigts. Ah oui. Typiquement, ce qu'ils ont essayé avec MiHoYo. Et en fait, le public chinois et les décideurs chinois dans les boîtes sont en mode, c'est quoi votre délire? Vous êtes débiles, en fait.
Ils ont battu les couilles, vraiment.
Du coup, bah, ce qu'ils ont
l'air. China win.
Genre, le deal. Mais ça, c'est ça.
C'est ça.
Victoire du communisme. Bref, et du coup, oui, même le dirigeable et tout, bah, ça n'a pas fonctionné, etc. Parce que, bah.
Oui,
c'est juste des doigts, quoi. Et aussi, pareil, c'était aussi. Puis Genshin, c'était aussi l'histoire de. C'était que l'artiste derrière un des personnages, qui était en plus qui était le plus populaire à l'époque, était une vienne féministe parce qu'elle avait liké des bails Megalia adjacents il y a longtemps. Parce que typiquement, ils adoraient fouiller à chaque fois en mode ah, la meuf, quand elle avait 16 ans, et il y a vraiment eu ce qu'elle a une fois, quand elle avait 16 ans, elle a tout fait une fois Menard Trash, enfin l'équivalent coréen, quoi. Oui. Du coup, c'était suffisant pour. Il y a une vieille féministe, faut la virer, quoi. Et là, c'était un cas un peu comme ça, il me semble, si je me rappelle bien, en mode où elle avait soutenu des meufs virées pour ce genre de raison, et du coup, c'était suffisant pour aller la harceler, etc. Sauf que du coup, bah,
Mio, l'entreprise étant chinoise, ils s'en sont un peu battu les couilles, en fait. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose par rapport à ce Gamergate coréen?
Non, c'est grotesque, hein.
Ok,
grotesque. Bien. Kron, elle a adoré, hein.
Mais c'est shot.
Kron, elle pilotait le dirigeable, hein.
Après, attends, je suis désolé, moi, tu mets un dirigeable entre les mains.
Non, en plus, Van, sur le dirigeable, en plus, ils ont mis le logo tellement gros que de Hoyoverse par rapport à leur message, qu'en fait, de loin, tu ne voyais que le Hoyoverse. Du coup, ils ont juste fait de la pub gratuitement pour la boîte.
Ils ont juste perdu de l'argent pour faire de la pub pour Hoyoverse.
Ouais. Et du coup, fun fact, genre un bail, genre $12,000. Et il paraît qu'il y a de l'argent qui était siphonné par le. En plus, le mec a volé de la thune de la commu, quoi. Vraiment, le gratin.
Oh, les losers!
Et du coup, la Corée du Sud a beau être un pays très, très conservateur et très sexiste. Bon, il y a quand même eu depuis une dizaine d'années ça a commencé avec Megalia, mais ça s'est pas du tout arrêté là. Il y a un mouvement féministe beaucoup plus radical mais structuré qui s'est mis en place, il y a eu des mouvements qui ont émergé. Et en fait, on peut voir un petit peu en Corée du Sud qu'il y a eu, du coup, comme on disait tout à l'heure, un féminisme très, comment dire, très légaliste. C'est beaucoup concentré sur le fait de faire passer des lois pour avoir l'égalité de fait dans la loi, mais qui ne s'est pas concentré sur tout le reste, sur tout l'aspect culturel, sur tout l'aspect du reste de la domination patriarcale.
Après, c'est ce qui se faisait aussi, nous, à l'époque. Hein, je veux dire,
Oui, mais pas, non, enfin, pas de cette manière-là, dans le sens où là, on est resté vraiment typiquement dans un truc purement légaliste. Et justement, il n'y avait pas tout ce féminisme radical que nous, on a eu dans les années 60, 70, 80, parce que, en fait, le féminisme coréen est quand même un mouvement beaucoup plus récent que ce que nous, on a connu en France, par exemple. Et justement, en fait, il y avait ce truc de... Il y a un peu eu un retard au niveau du féminisme. Le truc, c'est que comme la Corée du Sud est un pays extrêmement connecté à Internet, ben en fait, là, depuis une dizaine d'années, justement, en fait, tout ce truc que nous, on a connu en plusieurs décennies, elles, en l'espace d'une décennie, en fait, elles ont connu un petit peu le condensé, quoi. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas en Corée du Sud de réinventer ce truc-là, de réinventer les luttes et de repasser par les mêmes crises que le féminisme occidental a connues, à savoir les bails de transphobie, d'homophobie, de lesbophobie, etc., de racisme, et de comment dire, la difficulté à relier ça à la lutte des classes.
Mais tranquille, du coup, elles vont vite nous dépasser, du coup.
Bah, en vrai, c'est pas forcément impossible, parce que, du coup, depuis quelques années, alors c'est difficile de vraiment retracer ça, mais en gros, depuis quelques années, il y a un mouvement en Corée du Sud, qui s'appelle le mouvement 4B, qui est, pour la faire très courte, un mouvement, comment dire, qui reprend pas mal de bases du séparatisme lesbien tel qu'on l'a connu, nous. Sauf que là-bas, il fonctionne un peu mieux, on va dire. C'est-à-dire que nous, bon, ça a été très vite un naufrage, en vérité. Et là-bas, c'est quelque chose qui a tendance, a priori, à vraiment prendre de l'ampleur. C'est-à-dire que c'est 4B, c'est pour les 4 noms, en gros, parce que BI veut dire, BI veut dire non en Corée du Sud. Enfin, en coréen, et en gros, les 4 noms, c'est non au mariage, non au fait de faire des enfants, non au dating avec des hommes, et non aux relations sexuelles avec des hommes.
Girl boss ! Du coup,
attends, être contre le séparatisme lesbien en Corée, c'est être biphobe ?
Oh. Non, être 4 fois bi, du coup. Attends.
Non, être contre, c'est biphobe.
Oui.
Très joli. J'ai mis du temps à le capter, mais... Mais oui, en gros, du coup, ce mouvement est né il y a quelques années. Alors, bon, il y a beaucoup de fantasmes, surtout de... On en parle pile au bon moment, d'une certaine manière, parce que là, depuis... Moi, j'ai fait des recherches là-dessus ces derniers jours, et en fait, depuis 2-3 semaines, c'est un mouvement qui a pris d'assaut, on va dire, les réseaux sociaux et surtout TikTok. En fait, il y a plein de contenus qui sortent là-dessus pour dire de la grosse merde, en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'on entend à l'heure actuelle sur le mouvement 4B qui traîne sur les réseaux sociaux comme YouTube ou TikTok, et ça se range dans 2 catégories. C'est soit les fantasmes de féministes occidentales, souvent des TERFs, qui sont qui exagèrent de fou le truc, en mode le mouvement 4B a fait chuter la démographie en Corée du Sud tellement du coup maintenant il n'y a plus d'enfants qui naissent, etc. Soit c'est l'inverse, c'est des gens qui vont expliquer que ah non, c'est un truc ultra marginal, ultra radical, qui n'a strictement aucun impact sur la société, dont personne n'a entendu parler en Corée du Sud. Et la réalité, elle est un peu entre les deux, sauf qu'elle est très difficile à réellement comprendre. C'est-à-dire que ce dont je me suis rendu compte ces derniers jours, c'est que, en fait, le contenu qui vient de Corée du Sud sur des trucs aussi clivants et radicaux que ça, ben, en dehors de 2 ou 3 articles un peu vagues qui, au meilleur des cas, ont plus d'un an, c'est extrêmement... on n'en a que des sources ultra partiales et qui fantasment complètement le truc. En fait, il y a très très peu de vrai bon contenu là-dedans. Donc en fait, tout ça pour dire que bah, le féminisme en Corée du Sud a l'air de beaucoup avancer et traverser de toutes les contradictions qu'on a connues en plusieurs décennies, mais en l'espace de seulement quelques années, surtout à travers ce mouvement. Mais en même temps, bah, on peut pas en dire grand-chose de plus de notre point de vue sans faire beaucoup, beaucoup plus de recherches.
Bon, après, je pense qu'on est, d'accord que s'il y a une chute de la démographie en Corée, c'est pas tant la faute des odieuses.
Non, ça n'a strictement pas.
Elles mangent les enfants.
En fait, c'est un but à terme du mouvement de faire, enfin, de dire vraiment, on va pas reproduire la force, enfin, pas la force de travail parce qu'elles ont pas une analyse marxiste du truc, mais on va pas reproduire le patriarcat en créant plus de gosses et plus de la population. Mais la vérité, c'est que oui, la démographie en Corée du Sud est en chute depuis plus de 15 ans. Enfin, en chute libre depuis plus de 15 ans.
De toute façon, tu vois ça dans la plupart des pays, des pays capitalistes, néolibéraux, etc. Je veux dire, les chutes de démographie, c'est...
Oui, après là, c'est quand même le pays avec le plus faible taux de natalité au monde. Donc c'est quand même...
Avant ça devait être genre le Japon ou un truc comme ça.
Est-ce qu'on passerait pas du coup, maintenant qu'on a parlé de la Corée du Sud, au cœur du sujet, c'est-à-dire... Le Gamergate 2, Suicide Squad, Sweet Baby Pink, tout ça, quoi.
Oui, chez nous, en Occident, du coup.
Notre petite version à nous. Bah, après, s'ils s'en seraient battus, ils vont reperdre chez nous, hein, let's go. Hein.
On va en parler en vrai. Hein.
Après, moi, ce que je vois aussi, c'est que, à l'époque, il y a eu des réponses qui leur ont été données... donné très vivement sur internet. Il y a vraiment eu de la critique, il y a vraiment eu une lutte sur internet pour ça. Là, si je pense on part déjà en mode non, c'est pas vraiment un Gamergate, c'est pas grand chose, etc. Oui. C'est rien. Bon, j'aimerais bien qu'on prenne un petit peu plus. Voilà.
Que de base, même s'ils n'avaient pas leur objectif.
De Suicide Squad et Sweet Baby Link, vu que c'est toi qui avais couvert le truc.
C'est surtout que même s'ils n'atteignaient pas leurs objectifs, le problème est quand même que c'est quand même une machine à radicaliser à la base. Du coup, même si ça s'applique pas sur le jeu vidéo à la fin, c'est quand même chiant qu'il y ait Gamergate.
Ouais, c'est ça le problème.
Bref, mais du coup, Gamergate 2, qu'est-ce qui se passe? Du coup, pour rappel, je vous renvoie à ma news premier Game of Advance, où du coup, pour faire très vite, plusieurs jeux ont déçu, plusieurs jeux étaient pointés en mode « Oula, il y a des wok !» Et en fait, ils ont trouvé un point commun entre tous ces jeux, c'est que il y avait Sweet Baby Inc., une boîte de sensitivity reading, une boîte de prestat narrative qui fait aussi de la relecture... sur des biais, sur le racisme, etc., sur le genre, etc., qui en fait a posé sur tous ces jeux et qui bosse à la fois sur des gros jeux indés et sur des prods AAA. Typiquement Spider-Man, Suicide Squad, Dune, etc.
Le vrai problème de Suicide Squad, c'est le shop.
Quoi ?
Ouais.
Le cash
shop. Du coup, les gamers ont trouvé le premier marionnettiste de la chaîne, parce qu'il y en aura plusieurs par la suite. Mais du coup, ils ont trouvé leur premier marionnettiste qui crée le wokisme dans les jeux. Parce que évidemment, c'est pas les boîtes qui viennent contracter Sweet Baby Inc. C'est Sweet Baby Inc. qui tient les ficelles derrière, tu vois, etc. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont créé un Discord avec plusieurs milliers de membres, un groupe de curation Steam à plusieurs centaines de milliers de personnes pour marquer au fer les jeux faits par Sweet Baby Inc. pour les boycotter. Ça donnait lieu du coup à masse de contenu sur YouTube, etc., plusieurs millions de vues sur les woke dans l'industrie, Sweet Baby Inc., etc. Ça a très vite viré, comme d'habitude, à des théories du complot sur BlackRock, des trucs antisémites et compagnie, de qui gère secrètement Sweet Baby Inc.
Oui, comme d'habitude.
Qui leur a imposé cet agenda qui s'impose eux aux jeux vidéo, etc. Bon, bref, un enfer. Et le truc, c'est que du coup, la petite nouveauté par rapport à ce que j'ai déjà tout raconté jusque-là dans mes deux fois où j'ai pas de Gamergate, c'est que du coup, ils ont commencé à investir du discours autour de jeux actuels. Typiquement, leur porte-étendard actuel, c'est Stellar Blade et Helldivers 2, comme j'en ai parlé dans ma chronique tout à l'heure. C'est des jeux qui les galvanisent, qui pour eux incarnent ce que devrait être le jeu vidéo selon eux. Ils se moquent dans le cas d'Helldivers que c'est de la satire, parce que ben, pour eux, ils peuvent l'ignorer, le prendre pour un genre content et investir cet imaginaire-là, comme ils l'ont fait par exemple pour Warhammer. Ça les dérange absolument pas. Et en, à l'opposé, du coup, bah, ça leur donne un vecteur d'attaque, de comparaison, de base de référence, quand ils veulent s'attaquer à des jeux comme, typiquement, là très récemment, Star Wars Outlaws. Alors, personnellement, le jeu, je m'en bats les couilles complètement. Genre, Star Wars, ça me parle pas, Ubisoft, etc., blablabla. Mais du coup, bah, le fait est que bah, ils sont tous convergés pour dislike la vidéo, pour faire du discours autour, etc., parce que oh, l'héroïne n'est pas dans les canons de beauté que eux ils s'imaginent. Alors que bon, bah, la meuf elle est mimi, elle a sa petite frange, etc. Mais c'est pas la meuf de Stellar Blade, quoi. Du coup, ça chouine. Et donc du coup, bah, actuellement, on en est là. Du coup, bah, c'est beaucoup actuellement de... On n'a pas encore eu de gros cas, de, à ma connaissance. Enfin, il y a dû à seulement Twitter de personnes en particulier. Mais il n'y a pas encore eu, à ma connaissance, de cas, comme à l'époque, de doxing, de swatting, d'alerte à la bombe et compagnie.
C'est moins individuel.
C'est moins individuel pour l'instant. Ça va juste harceler rapidos, mais pas sur la durée, les journalistes qui traitent le sujet et des devs individuels de, des boîtes. Mais il n'y a pas de gros noms qui sortent actuellement qui harcèlent en boucle pendant des semaines. Souvent ça dure quelques jours, ils passent à autre chose. C'est vraiment du fire and forget actuellement.
Après, faut quand même se rappeler qu'il y a quand même un petit tweet de Elon Musk en soutien
ah oui, aussi, ouais.
Qui a relayé. Du coup, on va pour introduire quelques termes qui seront un peu sur l'ancien trou dans tout ce débat là. Qui justement, il me semble qu'il relayait directement Grumz.
Ouais, ça c'était Grumz. Ouais. Il a écarté Grumz en talk, enfin en discussion avec des mecs qui parlaient de BlackRock.
C'est ça. Globalement, donc c'est Grumz, ça va être une des grosses figures de ce nouvel Gamergate. Il a réussi à beaucoup surfer là-dessus. Quitte à Grumz, c'est un mec raté qui a bossé dans l'industrie, qui un jour a été à la tête d'un projet qui l'a complètement planté avec des idées vraiment à la con, mais vraiment genre Elon Musk, mais sans la hype autour de lui. Du coup, il y a trois personnes qui ont cru, il a balancé tous les fonds de sa boîte dans un bus de promo pour son jeu vidéo. Et c'était de la merde.
Alors qu'il aurait dû prendre un Zapin, en fait.
Mais du coup, voilà. Et il arrive, et une de ses théories, justement, c'est que, s'il y a autant de persos woke dans les jeux vidéo, parce que, voilà, autant de persos politiques, c'est-à-dire racisés, non-binaires, trans, non-blancs, etc., c'est parce que les boîtes essayent de choper des ESG funds, je sais plus ce que c'est comme acronyme exactement, mais en gros des fonds, c'est un truc genre économique et social governance, donc en gros des fonds, des green funds, des trucs pour les trucs un peu woke qui font dans le sociétal et tout. Et voilà, c'est que les studios, ils veulent ces fonds-là, qui sont notamment avancés par BlackRock, et c'est là qu'on va commencer à avoir les théories antisémites qui commencent à être introduites. Et voilà. Ce qui est complètement... Enfin, voilà, il y a Rami Ismail, par exemple, qui avait réagi par rapport à ça. Et qui en mode, mais moi, je connais un peu tout le monde dans l'industrie. Croyez-moi, si les boîtes accueillaient la représentation à bras ouverts, parce qu'il y a BlackRock qui leur payait 100 000 balles pour avoir un perso noir, une héroïne noire dans le jeu vidéo, on serait un petit peu au paradis, on en parlerait. C'est pas exactement le cas aujourd'hui.
Ça, parce que la réalité qu'on connaît, bah, ça compte pas tout à l'heure, c'est que genre à chaque fois, on sait que c'est les gens qui travaillent en interne qui essaient d'imposer ces thèmes-là, quoi. Et quand ils arrivent à gratter un petit truc, c'est quand même pas eux qui ont le mot final dessus, quoi.
Mais beaucoup d'exemples de persos racisés qui, au fur et à mesure des itérations et des revues par la direction, qui se retrouvent de plus en plus blanchis.
Oui, de plus en plus
blanc, les gens, ils doivent se battre pour le code hexadécimal, en fait.
je pense que l'une des grosses différences, justement, c'est ça aussi, l'une des grosses différences entre le Gamergate à l'époque et ce qu'on a maintenant. Que bah en fait tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure, en fait c'est passé par là, le côté reprise politique et tout. Et en fait maintenant les gamergateux, c'est plus quelques connards dans leur chambre qui harcèlent des gens parce qu'ils sont derrière leur clavier et tout. C'est le Gamergate, c'est Elon Musk qui amplifie la parole de certaines personnes, c'est des influenceurs ultra, ultra, ultra connus qui font des millions de vues, qui sont déjà bien implantés, qui surfent sur ces panic woke, enfin, contre le wokisme et tout, quoi, je veux dire. Alors... et c'est des politiciens qui savent déjà très bien instrumentaliser tout ça, même si le gros du travail a déjà été fait là-dessus, quoi.
Oui, parce que c'est youtubeurs et tout qui parlent et tout. Faut pas oublier que à l'époque, c'était aussi des gamers ghettos. C'est pas les plus radicaux, oui. Pas les plus connus, ils sont lancés après, ils ont revu leurs pensées, etc. Mais que le premier Gamergate, ça a été vraiment genre établir une base, j'ai envie de dire presque une base théorique, une base méthodologique. Et que bah, là, ce dont on parle actuellement, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes méthodes. Il y a quelques différences, bah, comme vous disiez, c'est pas du, il y a moins de harcèlement ciblé pour l'instant. Mais ça reste les mêmes personnes, les mêmes méthodes et la même représentation en termes de vote. C'est-à-dire que si, à l'époque, le vote des gamers ghetto s'est transmis directement sur un vote de Trump, moi, je pense que ça n'est pas non plus anodin qu'on soit dans une année électorale aux États-Unis. Que cette année, il y a une élection. Et à cette élection, qui se présente ? C'est Biden et c'est Trump. Enfin, des deux gros partis, en tout cas.
Oui.
Donc, c'est pas anodin non plus. Et pour le coup, je reviens un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, en mode le premier Gamergate ne s'est jamais terminé, du coup, c'est pas vraiment un Gamergate 2. Je suis pas... je veux dire, oui, le Gamergate 1 ne s'est jamais terminé, mais je pense que là, on a une cristallisation, de nouveau, on a une pointe où ces angoisses identitaires et ces mobilisations de l'extrême droite sur Internet, elles étaient présentes tout du long, sur d'autres trucs, d'autres manières, mais que là, on a une recrudescence de nouveau ce rassemblement sur le sujet du jeu vidéo, comme on avait à l'époque. Il y a vraiment une cristallisation de ce truc, et moi, je pense, et c'est peut-être là où on va aller pour la suite du débat, qu'on peut parler d'un nouveau Gamergate, d'un Gamergate 2. Il y a vraiment un renouveau, un élan comme on a eu à l'époque de ces communautés-là, et justement amplifié par des personnalités comme Elon Musk.
On pourrait arguer que c'est pas deux parce qu'il n'est pas vraiment mort, mais effectivement il y a une deuxième vague d'intensité très notable, quoi.
Après, genre, je sais pas comment dire ça. Il y a aussi ce truc de le Gamergate a aussi, enfin, au niveau de la violence, ça reprend. Ils ont trouvé une nouvelle cible. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont trouvé maintenant? Parce que c'est des trucs, enfin, tu vois, genre les youtubeurs Gamergate, ils continuaient à produire 5 vidéos par semaine extraites de leur live mal coupées, etc. À essayer de trouver des cibles, tu vois. Et genre là, ils ont trouvé un truc qui marche et qui permet de refaire parler d'eux. Pourquoi est-ce que c'est ça maintenant? En vrai, je sais pas trop. Mais un peu ce truc de, moi, j'ai l'impression qu'il y a presque peu d'intérêt politique par rapport au Gamergate 2, genre, effectivement, on a eu un tweet d'Elon Musk, ce qui est gros, mais en même temps, ça a pas été le tweet sur lequel, le truc sur lequel Elon Musk a balancé sa meute à H24, genre, ça a pas l'air d'être un truc, tu vois, genre, les réseaux entre les gens du côté jeux vidéo et les gens de l'extrême droite en général, ils sont déjà bien établis. Bon, après, des Ayan Malcheong ou des Yiannopoulos, bon, ils sont pas très... c'est un peu des ringards, mais en tout cas, les liens, ils sont là. Et ça, pour un truc qui est aussi installé, ça n'a pas l'air d'être spécialement repris. J'ai plus l'impression que, ouais, voilà, peut-être que c'était un moment où ils se disaient, il faut qu'on retrouve un truc, qu'ils ont réussi à retrouver un truc, à surfer dessus, etc. Mais je sais pas si c'est pas même quasiment, enfin, tu vois, genre, ouais, voilà, ils ont trouvé la théorie du complot du moment. Je sais pas si c'est un lien spécial, et je sais pas si ça produira quelque chose de nouveau, à part un petit peu de recrutement, voire beaucoup, ça. J'espère.
Moi,
pas trop.
Il y a ce truc que, genre, ouais, à la fois, un bon point pour nous et un mauvais point à la fois, c'est que, pour le coup, ben, Gamergate est passé par là. Du coup, les boîtes ont déjà été confrontées à ça. Et typiquement, sur Baby Inc, quand ils ont été attaqués, toutes les boîtes ont fait corps autour d'eux pour ne pas les lâcher. Et du coup, bah, t'as ce truc que, du coup, bah, ils n'atteindront jamais leur objectif dans le jeu vidéo. Par contre, c'est-à-dire que du coup, c'est une situation qui va être bloquée où, du coup, les gamers vont perdre en boucle sur ce terrain-là, mais ça va permettre de les radicaliser encore plus. Du coup, c'est-à-dire qu'il y a cet ennemi puissant, invisible, qui leur fait face tout le temps, qu'ils n'arrivent pas à abattre. Et du coup, ça alimente les théories du complot et ça permet de maintenir le recrutement sur la durée, quoi.
En fait,
je reviens là-dessus. Moi, je pense que c'est vraiment, vraiment pas anodin qu'on soit dans une période électorale. Que, en fait, de toute façon, c'est l'argumentaire du Gamergate.
Au niveau
en
des
fait,
conséquences, au commun, niveau des, de pourquoi est-ce que ça arrive maintenant.
De pourquoi est-ce que ça arrive maintenant. Parce que les arguments des Gamergateux, en fait, je veux dire, ils convainquent toujours. Tu vois, cette angoisse identitaire, elle est toujours là. Ça marche toujours. Il y a des montées de l'extrême droite. Que, quoi qu'il arrive, je veux dire, ça touche des gens. Mais pourquoi est-ce que aujourd'hui, ça va toucher plus de monde et il y a un relancement de ce phénomène-là. C'est que bah, dans les périodes électorales, on s'intéresse un petit peu plus à la politique. C'est-à-dire on est plus proche de ces enjeux-là parce qu'en plus de ça, tu as des politiciens en campagne qui vont reprendre ça. Ils vont reprendre et surfer sur ces éléments-là, sur les angoisses identitaires. Du coup, avec ce remous-là, bah, moi, je trouve que ça a du sens, tu vois, que ça...
Mais moi, je suis à la fois un peu d'accord avec ça, et en même temps, je nuancerais aussi sur le fait que...
Je pense pas que ce soit tout, mais...
Non, mais sur le fait aussi que, bah, justement, avec le Gamergate, ça a un peu lancé cette vague de... panique morale virale qui vraiment prend énormément de place dans les discours en ligne, sur Twitter, etc. Et on a commencé vraiment à avoir plein de vagues comme ça qui se sont succédées les unes après les autres. Et en fait, c'est aussi pour ça que, tu vois, Ash disait juste avant que bah, Elon Musk, il s'est pas arrêté plus que ça sur le sujet et après il allait tweeter sur d'autres paniques morales. Parce qu'en fait, maintenant, les jeux vidéo, c'est juste une corde à l'arc de tout l'arsenal qu'ont les droitards et les fachos pour mobiliser l'opinion publique, que ce soit à travers les jeux vidéo, à travers les films, etc., comme on l'a dit juste avant, et à travers tout un tas d'autres choses à la con, comme les personnes trans.
Ça s'ajoute à la culture war. En fait.
Oui, voilà, c'est ça, en fait. Et du coup, maintenant, c'est plus qu'un chapitre de ça, un truc probablement assez limité dans le temps, beaucoup plus que le premier, je pense, mais qui... Il sert juste à remettre une pièce dans la machine comme plein d'autres choses servent à remettre une pièce dans la machine. Quoi.
Parce qu'il y a ce truc que, comme disait Kron, c'est que tu as ce truc que... c'est par le fait d'être en période électorale qui fait que du coup les gens se mobilisent là-dessus mécaniquement. Et tu as aussi ce truc que... et qu'elle parlait des discours, parce que du coup typiquement les discours des politiciens vont pas porter sur le jeu vidéo lui-même. Par contre, ça va être porté sur Netflix, sur Hollywood, etc. Et du coup, bah, les gamers qui eux connaissent les jeux vidéo, immédiatement ils savent calquer ce raisonnement-là sur leur médias eux. Quoi.
Il y a Miss Mew qui dit dans le chat que ça permet d'établir un nouveau vocabulaire sur le DEI, c'est la cause de tous les problèmes. Je pense qu'elle a un peu raison sur ce côté-là, dans le sens que... ouais, c'est ça, le DEI n'était pas spécialement visé comme... Enfin, voilà, le il y avait eu déjà plusieurs vagues la discrimination positive, c'est du racisme inversé, etc., etc. On connaît le truc, mais c'est vrai que c'est un truc qui était plus trop présent aussi. Il y a pareil tout le sensitivity reading qui est arrivé dans l'industrie et qui n'a pas été spécialement la cible de alors ça l'a été évidemment. C'est pas pour nous, etc. Et de toute façon, c'était déjà assez dur de pousser à ce que ça existe dans l'industrie pour que ce soit un peu moins de la merde. Il y a des trucs à questionner, mais voilà. Et au final, c'est vrai qu'il y a cet enjeu de quasi les gamergateux découvrent un petit peu les nouveaux mots et ils vont pouvoir attaquer sur les nouveaux mots et ils ont s'ils ont trouvé Sweet Baby Inc, c'est parce qu'ils ont appris les mots sensitivity reading et que maintenant ils vont pouvoir les utiliser. Oui, est-ce que c'est un truc aussi qui va se transmettre dans les campagnes? C'est vrai que ça c'est une bonne question.
Yep. Et pour revenir rapidement sur la question du terme Gamergate 2, du coup moi j'avais tiqué dessus parce que du coup il y avait Lucie Ronfaux qui du coup est ancienne newsletter Règle 30 pour Numérama qui nous avait cité, du coup merci à elle, hein, c'était cool en plus, une bonne newsletter qui parle de qui aborde le sujet Gamergate, hein. Mais du coup elle, son texte c'est justement que Gamergate 2 serait un terme qui serait galvanisant pour les Gamergateux qu'il faudrait pas utiliser, sauf que bah moi ce que j'ai envie de répondre c'est qu'ils étaient structurés avant qu'on les nomme comme ça en fait. Donc, certes ils sont nommés eux-mêmes Gamergate 2, mais à partir du moment où ils sont des centaines de milliers à être organisés entre eux, est-ce que c'est légalamiste tant que ça qu'on reprenne le terme qu'ils utilisent déjà eux-mêmes, quoi.
En vrai, par rapport à Gamergate 1, est-ce que c'est pas un peu gros de les appeler Gamergate 2 finalement? Est-ce que c'est pas leur donner trop d'importance, tu vois?
Bah, c'est ce que,
après,
c'est
dans tous les cas, il y a les mêmes mécanismes.
Après, simple. Question d'importance, de toute façon, ils en ont.
Je pense qu'il y a une question par rapport aux normies aussi, parce que nous, tu vois, on sait ce que c'est que le Gamergate 1, et on est en mode, on connaît bien les comment dire ça. On sait très bien que ça a continué, on sait très bien, enfin voilà, on sait très bien que c'est juste une réactivation, etc. Genre, est-ce que pour des normies, ça va pas trop donner de la hype et trop donner soit du dooming, soit des trucs qu'on n'a pas forcément envie de transmettre. Je pense qu'il y a des questions qui sont
En fait, c'est vrai que je suis étonné de à quel point ça parle en pas fait, trop aux gens de Gamergate chez les personnes qui sont assez jeunes ou quoi, ou même les gens qui sont pas.
Bah non, mais parce que déjà à l'époque, ça reste minoritaire, tu vois. C'est pas un sujet auquel les gens discutent entre jeunes. Ça n'est pas un sujet genre de jeunes. C'est un sujet de communauté très précise.
De communautés qui sont au terminal online,
Internet,
quoi.
Tu vois. Plutôt. Et que après, bah, ça va résonner parce que ils ont de l'audience, qu'ils chopent des youtubeurs qui parlent à une plus grosse audience, etc. Que là, j'ai envie de dire, on est relativement au début et on est en France aussi.
Ouais.
Ça n'a pas du tout la même portée que ce que ça a aux États-Unis. Et que par exemple, quelqu'un comme Asmongold qui fasse des vidéos là-dessus, qui reprenne un petit peu ça, qui retombe dans ce vortex-là, ça va appeler aussi de nouvelles personnes là-dedans, parce que c'est cette angoisse identitaire, je veux dire, ça fonctionne toujours hein, de marcher dessus. C'est comme ça que les extrêmes droites diverses dans le monde récupèrent de l'électorat, vont convaincre que ce soit les jeunes ou pas les jeunes du tout. Quoi.
En France, il y a un peu R comme écho de cette deuxième vague où je suis l'élu.
Je pense
c'est
que.
Je suis pas extrême droite, mais ouais. Bon, c'est dans leur cercle. Quoi.
Voilà, en fait, France, on en parle pas tant que ça.
En France, je pense qu'il y aura pas grand-chose, à moins que...
Mais il y a aussi...
Fait,
il y a pas de chance politique, quoi, en ce moment. Ouais,
ouais tu vois, le relais politique, il est bien moindre en France sur ces questions-là qu'aux États-Unis, c'est un peu différent.
Puis il y a d'autres questions en ce moment qui font que bon, les jeux vidéo flamment, quoi.
Bah ouais.
En France, il n'y a pas de grosses échéances politiques. Genre, bah, en 2017, il y avait eu tu vois, genre, t'avais vu une grosse. Moi, je me souviens que, genre, la mobilisation du 18-25 sur Marine Le Pen, mais aussi sur Mélenchon, ce qui était, ce qui était un truc un peu intéressant. J'ai pas trop de commentaires là-dessus à dire. Mais voilà, il y avait eu cette double mobilisation qui avait été intéressante. Il y avait eu aussi, enfin voilà, 2013-2014, c'était le moment où beaucoup de nouvelles initiatives féministes ont émergé et c'est elles qui se sont fait attaquer. Et il y a un peu ce truc de aujourd'hui, il n'y a pas de grande nouveauté qui arrive là dans le féminisme. Peut-être qu'on va voir les questions trans qui vont arriver à ce moment-là, qui vont arriver là sur le devant de la scène. On sait pas encore trop dans quelle mesure ça va se faire.
En 2022,
ce serait cool que ce soit pas trop. Mais...
En 2022, on en parlait déjà. Je veux dire, ça avait déjà, par exemple, les Zemmour qui en faisaient un point de discours. On verra la prochaine présidentielle, mais en tout cas, c'est pas sur les européennes là.
Et même avant, en vrai.
Avant.
Bah, avant,
tu exploses sur les luttes trans. Je pense que tu vas avoir, ça va essayer de choper là-dessus. Je sais pas dans quel sens.
Bah, une certaine, en fait, d'une certaine partie de la population, tu vois. Je pense que il y a un petit peu la chance qu'on a pour l'instant, c'est que en fait les débats anti-trans et tout, ça touche assez peu les normies, tu vois. Et la plupart ils s'en battent les couilles.
C'est pour ça. Ouais.
Ça a pas beaucoup d'écho. Ça peut changer. Non, ça peut changer.
C'est pour ça que j'ai peur que ça change. J'ai peur que ça change avec la PPL. Au moment où la PPL passe, est-ce qu'ils vont réussir à imposer ça comme un sujet de débat public? C'est pour ça que j'ai peur pour le futur proche. C'est de ça que je parlais justement. Mais on est d'accord
on est au début du truc. Le Gamergate, ça a duré. Genre, le gros du truc, c'était pendant 2 ans, quoi.
Ouais.
Là, je pense qu'on est encore au début du truc et que faut voir aussi comment est-ce que ça évolue. Là, il y a l'échéance électorale aux États-Unis et je pense qu'il faut s'attendre à ce que ça prenne aussi de l'ampleur là-dessus. Mais ça peut aussi flopper. Ça peut aussi, après l'élection présidentielle, que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, flopper en mode « bon, bah ça y est, on a plus, on a, on, Soit on a perdu, du coup on se tait un petit peu plus, ou en tout cas enfin, les normies qui vont être convaincus par le truc, pas les plus radicaux, vont en tout cas reculer sur leurs engagements en mode c'est tout quoi, tant pis. Si c'est l'autre qui gagne, je pense qu'ils vont aussi être là en position on a gagné, il n'y a plus besoin de forcer autant. Après, ça peut aussi se mobiliser différemment. Je sais qu'en 2016, tu avais eu quand même Je te file la parole juste après, Emma, excuse-moi. Je sais qu'après 2016, tu as eu quand même, genre, sur Internet, après la victoire de Trump, tu as eu une baisse des engagements, des gamergateux, tu as eu un petit peu une baisse de ça. Genre, à l'élection même, tu as eu un pic de joie, yes, on a gagné. Mais après, c'est quand même redescendu par rapport à ce que c'était avant. Parce que le phénomène électoral a cessé. Donc là, on verra, c'est possible aussi qu'après l'élection de cette année, ça reflope, c'est possible que ça relance le truc. Il y a, je pense que on verra.
Après, je pense aussi que je pense aussi qu'il y a un truc auquel on pense pas trop, c'est que mine de rien, le champ politique en ce moment, il est un peu occupé à d'autres choses. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux politiques qui sont concentrés, et notamment à gauche, dans la réponse qu'il peut y avoir et tout. C'est pour ça aussi, je pense qu'il y a un gros... beaucoup de gens qui ignorent tout ça, parce qu'en fait, il y a tout simplement un génocide en cours, enfin plus d'un même d'ailleurs. Il y a des génocides en cours, et en fait, ils prennent quand même pas mal de place médiatiquement d'un point de vue politique, ce qui laisse quand même probablement moins de champ libre aux paniques morales de ce genre, pour vraiment naître. C'est-à-dire que celles qui étaient déjà bien implantées, ok, elles sont toujours là, mais pour faire naître un nouveau mouvement de ce genre, je pense que c'est aussi un peu plus compliqué, peut-être que ça va mettre un peu plus de temps à arriver, quoi.
Non, moi je pense qu'on se trompe de public, parce que c'est justement lié. Le fait qu'il y ait un génocide en cours, que l'actualité elle soit prise par, que ce soit la question de la Palestine ou de l'immigration en général, en fait ça prend son sens directement dans ces communautés-là. Par contre, évidemment, ce ne sont pas des paniques morales, mais à l'époque, le Gamergate restait, même si c'était un gros truc, parce que c'est nos milieux, c'est les milieux dans lesquels nous, on est, on traîne, on vit dans ces milieux jeux vidéo et Internet. On a l'impression que c'est un truc énorme, mais il faut quand même relativiser le côté panique morale globale. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça a un sens, ça a déjà un sens particulier, parce que il y a toutes ces questions d'immigration, tout ça, et que un gamer peu politisé à qui tu vas aller, tu vas aller nourrir son angoisse avec des idées conservatrices sur le plan de l'identité, et bah ça marche déjà, parce que c'est un bouc qui va se mettre à avoir des avis très précis sur l'immigration, par exemple. Ou très précis sur ouais. le conflit sur Israël et la Palestine. Justement parce que ça, c'est le débat public. Et dans les communautés en dessous, les petites communautés là de gamers à qui ça s'adresse, et ben, eux, ils vont reprendre les arguments qui sont partagés par le Gamergate pour les appliquer à des contextes plus globaux. Tu voyais ça déjà aux États-Unis avec les gamers qui... après le Gamergate qui concernait de base que le jeu vidéo, le journalisme dans le milieu du jeu vidéo, et après avait des avis très tranchés sur la question de l'immigration aux États-Unis, notamment de la bordure avec le Mexique.
Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire pour conclure là-dessus et on termine le débat sur ça?
Non, Nick les gamers, hein. Ouais. Voilà.
Moi, je pense qu'on verra d'ici dans les prochains mois. Faut quand même rester. Ouais, rester éveillé sur stay woke, voilà, sur où est-ce que ça va. Ça peut flop, mais ça peut se relancer dans la phase de cristallisation dans laquelle on est, quoi.
Très bien. Eh bien, voilà qui conclut ce débat.
Ben oui, du coup, je reprends le lead. Voilà,
je vais
pouvoir
redonner la parole à...
Let's go, Léna.
Let's go pour lancer les recommandations.